Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La réélection de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie pour un quatrième mandat sera-t-elle une simple formalité dimanche? Après 18 ans au pouvoir, le maître du Kremlin paraît plus que jamais en position de force. Il faut dire que son principal opposant, le juriste Alexeï Navalny, ne risque pas de le déstabiliser puisqu'il a tout simplement été déclaré inéligible. Quant aux rares voix dissidentes dans le monde de l'art, elles sont bien vite étouffées. C'est le cas du metteur en scène Kirill Serebrennikov, à la tête d'un des plus prestigieux théâtres de la capitale. Il a été assigné à résidence, officiellement pour détournement de fonds. La culture sous surveillance, c'est le reportage d'Étienne Bouche.
C'est un film qui imagine de façon complètement désopilante les jours qui ont suivi la mort de Staline. Réalisé par Armando Iannucci, cette comédie britannique devait sortir en Russie le mois dernier. Les séances étaient déjà programmées, mais la veille de la sortie, coup de théâtre, le ministère de la Culture retire au film sa licence de distribution. Son ministre de tutelle, Vladimir Medinsky, estime que la mort de Staline s'en prend à des symboles nationaux. Si l'État souhaitait ne pas entendre parler de ce film, sa stratégie s'est révélée assez peu judicieuse, puisqu'elle a eu l'effet inverse. Le film a été largement commenté. Alexei Popogrebski est réalisateur. Ce qui le frappe dans cette affaire, c'est l'absence de motif juridique. Le film ne viole pas la constitution russe, il s'agit d'un authentique cas de censure. D'une manière générale, Alexei Popogrebski observe une influence croissante de l'État dans le domaine artistique. Il attribue cette tendance à l'actuel ministre de la Culture. Nommé en 2012, Vladimir Medinsky mène une politique très conservatrice, critiquée pour son conformisme idéologique.
Aujourd'hui, nous avons un ministre de la Culture qui est un historien et un fanatique d'histoire, un fanatique dans le sens premier du terme. Il prend extrêmement mal tout regard critique sur l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie tsariste. C'est à se demander qui il soutient du coup, le tsar ou les bolcheviks. Selon moi, il soutient tout ce qui a des racines impériales.
Il y a l'histoire, mais aussi la religion. Deux thèmes qu'il est préférable de ne pas aborder si l'on veut s'attirer les faveurs de l'État. Mais les pressions ne viennent pas forcément du pouvoir lui-même. En adoptant une loi qui pénalise l'offense aux sentiments religieux, l'État a ouvert la boîte de Pandore. Désormais, les associations religieuses n'hésitent pas à faire pression sur les œuvres qu'elles désapprouvent. L'année dernière, le milieu de la culture a connu une affaire retentissante. En plein tournage à Saint-Pétersbourg, Kirill Serebrennikov est arrêté. Metteur en scène, mais aussi réalisateur, il est accusé par la justice russe de détournement de fonds. Pour de nombreux observateurs, l'affaire ne tient pas debout. Gleb Sitkovski est convaincu de son innocence. Ce critique de théâtre souligne l'opacité d'une affaire qui semble motivée par des raisons politiques.
Personne ne peut comprendre la logique qui sous-tend cette affaire. Quels en sont les ressorts souterrains? Comment ça s'est passé? Qui est l'instigateur dans cette lutte de pouvoir interne? Personne ne comprend vraiment. Mais pour beaucoup, que l'affaire vise un théâtre ambitieux et qui formule régulièrement des critiques à l'égard du pouvoir, ça ne relève pas du hasard. Le monde du théâtre se sent tout à fait impuissant et ressent un certain danger, car tu peux très bien être le suivant.
Et ce Molière d'honneur, il m'aura donné beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, mais il va me donner aussi l'occasion d'apporter mon soutien à Kirill Serebrennikov, un metteur en scène russe.
Si l'affaire a fait grand bruit, c'est que Serebrennikov est une personnalité de premier plan. Son statut et sa notoriété à l'étranger semblaient le protéger. À Moscou, Serebrennikov est d'abord connu comme le directeur artistique du Centre Gogol. En 5 ans d'existence, ce théâtre est devenu l'une des meilleures scènes de la capitale. Le Centre Gogol est financé par l'État, ce qui ne l'empêche pas de monter des spectacles audacieux. Le spectacle présenté ce soir a déjà été joué et pourtant, la salle est pleine. En guise de scène, une étoile inclinée. Le spectacle est une évocation musicale de la vie de Mikhaïl Kouzmine, poète russe du début du XXe siècle. L'acteur qui l'interprète chante merveilleusement. Il nous parle de son personnage.
Mikhaïl Kouzmine a vécu presque 20 ans avec son amant, un jeune homme qui n'a cessé de le faire tourner en bourrique. Il passait son temps à batifoler avec de belles actrices, mais au final, il revenait toujours vers lui. Kouzmine était fou amoureux de lui, c'était la personne la plus importante de sa vie.
Odin Byron est américain. Parfaitement russophone, il travaille dans les théâtres moscovites depuis des années. Il apprécie particulièrement le public russe. En Russie, le théâtre occupe une place importante car c'est un lieu de réflexion. On y débat beaucoup plus que dans la sphère politique. Il y a quelques années, Odin a été contacté par Kirill Serebrennikov pour une adaptation d'une œuvre culte de Gogol. Depuis, il a rejoint la troupe du théâtre.
La singularité de ce théâtre repose d'abord sur la personnalité de Kirill Serebrennikov, un metteur en scène jeune, parmi les plus dynamiques, quelqu'un qui a une vision, qui sait ce qu'il veut créer. Si le centre Gogol est un lieu formidable, c'est aussi parce que sa troupe d'acteurs est l'une des plus jeunes de Moscou et que l'idée de départ, c'était de bousculer les codes du théâtre.
Avant d'être inquiété par la justice, Serebrennikov avait vu l'un de ses spectacles déprogrammé. Un ballet consacré au danseur Rudolf Nureyev monté pour la scène du Bolchoï. Deux représentations ont finalement eu lieu en décembre. Assigné à résidence, Serebrennikov n'avait pas pu y assister. Paradoxe d'une scène politique russe impénétrable, le porte-parole du Kremlin était venu applaudir le spectacle.
Et alors que les sondages donnent à Vladimir Poutine 69% d'intention de vote, le chef de l'État ne prend même pas la peine de faire campagne. Bonjour Daniel Valot.
Bonjour.
Vous êtes à Moscou, drôle d'ambiance donc, à 5 jours du scrutin.
Oui, c'est assez extraordinaire. Vladimir Poutine ne participe pas au débat télévisé avec les autres candidats. Il limite ses déplacements au strict minimum. Et lorsqu'il se déplace, la plupart du temps, c'est dans le cadre de ses fonctions de président, dans des conditions très encadrées, sans réel contact, ni avec la presse, ni avec les électeurs. Le seul moment jusqu'à présent qui a ressemblé à un semblant de campagne électorale, c'est le concert de soutien organisé il y a 10 jours à Moscou, dans le principal stade de la ville. Vladimir Poutine était présent devant plusieurs dizaines de milliers de partisans et figurez-vous que son discours a duré moins de 3 minutes, montre en main, c'est dire le peu d'attention que le président actuel, le président sortant, accorde à cette campagne électorale.
Et donc, en l'absence de campagne, difficile de se faire une idée sur le programme du candidat Poutine.
Oui, les seuls éléments dont on dispose actuellement sont issus du discours prononcé le 1er mars dernier devant les parlementaires russes. Vous savez, ce discours où il a été question durant près d'une heure des nouveaux missiles qui seraient capables de tenir tête aux défenses antibalistiques américaines. Et bien, durant ce discours, Vladimir Poutine a donné des pistes sur ce que pourrait être son quatrième mandat. Lutte contre la pauvreté, soutien au système de santé et aux infrastructures, mais rien de précis, très peu de mesures concrètes, des intentions, un cadre, mais pas de vrai programme. Les électeurs russes de Vladimir Poutine vont sans doute devoir s'en contenter.
Merci Daniel Valot à Moscou. Oubliez vos clichés sur la Suisse, pays de vertes vallées et de montagnes enneigées. La Suisse est aussi le paradis de puissants groupes de tabac, un pays où les enfants peuvent acheter des paquets de cigarettes et où la prévention contre le tabagisme est étouffée par de puissants lobbyistes. Bref, mauvaise note en matière de santé publique, comme nous l'explique Katia Michel.
Dans le classement de l'Association des Ligues européennes contre le cancer, la Suisse pointe à la 21e place sur 35, loin derrière le meilleur élève, le Royaume-Uni, ou la France qui se classe 4e. La Suisse est aussi pointée du doigt par l'Organisation mondiale de la santé pour son laxisme en matière de prévention. À Genève, par exemple, un enfant de 10 ans pourrait librement acheter des cigarettes s'il le souhaite. Si la vente de tabac aux mineurs est interdite dans la plupart des pays européens, dans certains cantons de Suisse, rien ne l'empêche. La publicité pour le tabac n'est certes pas permise à la télévision ou à la radio, mais elle s'étale partout dans la presse écrite, dans les arrêts de bus, les bars ou les boîtes de nuit. L'industrie du tabac parraine également plus d'une trentaine d'événements culturels ou sportifs. La Suisse fait également partie des rares pays qui n'ont pas ratifié la convention cadre de l'OMS, dont le siège est à Genève, pour la lutte anti-tabac. Ce qui explique cette exception helvétique, c'est le poids du lobbying. 3 multinationales du tabac sont implantées à Genève et à Lausanne. Japan Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco. Le secteur emploie 13 000 personnes. Et la Suisse produit chaque année plus de 40 milliards de cigarettes. Les retombées totales de l'industrie du tabac sont estimées à plus de 6,5 milliards de francs par an, soit 5,5 milliards d'euros, 1% du PIB. Les associations anti-tabac dénoncent les pressions exercées sur le monde politique par l'influente industrie du tabac. L'an dernier, par exemple, la loi visant à restreindre la publicité, notamment, n'a pas passé la rampe. Le paquet de cigarettes en Suisse coûte aujourd'hui 8,60 francs en moyenne, soit 7,30 euros, moins cher qu'en France. À l'heure où l'Europe ne cesse de durcir ses lois anti-tabac, la Suisse reste donc une place forte de la cigarette. Elle en exporte en valeur presque autant que le chocolat ou le fromage.
La future voiture écologique roulera-t-elle au carburant bio? Super 95 E10, c'est son nom, est un agrocarburant produit à partir de blé ou de betterave. Il y a aussi le 85, le super éthanol, ou le biodiesel produit à partir d'huile végétale. Autant de produits moins chers à la pompe qui pourraient nous donner le plaisir de rouler sans culpabiliser. Sauf que l'agrocarburant est peut-être encore plus polluant que l'essence produite à partir d'hydrocarbures. Écoutez le reportage de Laurent Berthoux.
Elle démarre comme n'importe quelle autre voiture, mais dans son réservoir du super E85, mélange d'essence et d'éthanol. Nicolas Kurstoglou, ingénieur au syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
Le super éthanol contient entre 65 et 85% de bioéthanol. Et le bioéthanol, donc, il provient des betteraves et des céréales produites en France. Il est plus écologique, puisque donc le bioéthanol permet de réduire de 66% les émissions de CO2, et il permet également de réduire très fortement les émissions de particules. Plus écologique, donc il est moins taxé, et donc il est beaucoup moins cher à la pompe, 69 centimes en moyenne par rapport à 1,46 pour l'essence classique, c'est-à-dire que même avec une surconsommation de l'ordre de 20-25%, on économise 500 euros tous les 13 000 kilomètres.
Sauf que pour rouler à l'E85, il faut quand même acheter une voiture dite flex-fuel. Or, en France, seuls deux modèles sont disponibles actuellement chez Jeep et Volkswagen. La solution la plus courante consiste donc à faire installer un boîtier électronique. Son coût, 700 à 1500 euros, est rentabilisé en un peu plus d'un an. Alexis Landrieux de la société Biomotors, l'un des deux fabricants et installateurs français de ces boîtiers.
Le boîtier de conversion bioéthanol va permettre électroniquement de modifier l'injection de manière à pouvoir utiliser aussi bien de l'essence, du bioéthanol, que le mélange des deux, et c'est dans le réservoir d'origine.
C'est juste des fils à connecter et des réglages à faire, il n'y a pas d'intervention sur le moteur lui-même.
Par contre, en effet, voilà, on ne change aucune pièce mécanique du moteur, aucun tuyau, aucun tube. Souvent la question se pose, est-ce que les pièces mécaniques d'origine sont prévues pour ça? En fait, oui, puisque si vous roulez à l'essence, vous utilisez déjà aujourd'hui forcément de l'éthanol, puisque dans les carburants traditionnels, il y a déjà de l'éthanol.
La France vient d'ailleurs de lancer des procédures d'homologation de ces boîtiers, car jusqu'alors le meilleur côtoyait le pire, ce qui a déjà fait exploser les commandes. On estime que 10 millions de véhicules pourraient ainsi rouler à l'E85 en France. La perspective de rouler pas cher et écolo intéresse aussi les automobilistes suédois, allemands et suisses, qui ont également un réseau de pompes à essence E85. Sauf que ce biocarburant, tout comme le biodiesel, produit, lui, à partir d'huile végétale, colza, tournesol, soja ou huile de palme, n'est pas aussi bon que ça pour l'environnement. C'est le point de vue de l'association européenne Transport et Environnement qui a mené une étude sur ce sujet. Laura Buffet, en charge du dossier des carburants.
La majorité des agrocarburants actuellement dans le marché européen augmentent les émissions de CO2 au lieu de les réduire par rapport au pétrole conventionnel. Ceci est dû aux impacts indirects qui sont liés à la déforestation. Parce qu'en fait, si vous prenez une parcelle de terre qui était initialement destinée à l'alimentation et que maintenant vous changez son usage, donc vous allez l'utiliser pour la production d'agrocarburants, donc ce qui a été fait en Europe par exemple avec le colza, qui est de plus en plus utilisé pour les agrocarburants, eh bien en fait vous allez devoir retrouver des terres ailleurs pour continuer à produire pour l'alimentation. Donc ce faisant, on détruit des endroits qui étaient restés intacts jusque-là, comme les forêts ou les zones humides ou les tourbières, qui sont d'importants puits de carbone. Donc c'est de là que viennent les émissions de gaz à effet de serre additionnelles des agrocarburants. Si on se base sur la dernière étude qui a été faite pour la Commission européenne sur ces impacts indirects, On s'aperçoit par exemple que le bioéthanol produit à partir de blé a des émissions de gaz à effet de serre qui sont quasiment les mêmes que le bilan carbone de l'essence.
Alors est-il totalement impossible de rouler propre avec des moteurs thermiques ? Non, à condition de développer les biocarburants de seconde génération. Laura Buffet.
C'est notamment le cas de bioéthanol produit à partir de résidus forestiers ou agricoles. Donc là, on voit qu'en moyenne, il y a un bilan carbone assez bon, clairement meilleur que pour les agrocarburants produits à partir de cultures alimentaires. Et aussi, on résout aussi le problème de la concurrence avec les marchés de l'alimentation en utilisant des résidus et des déchets.
L'avenir et la place des biocarburants de seconde et première génération en Europe, c'est l'objet des discussions qui ont lieu en ce moment au niveau européen dans le cadre de la seconde directive énergie renouvelable. Les eurodéputés ont d'ores et déjà acté la disparition progressive d'ici 2021 de l'huile de palme dans les biocarburants, de l'huile de palme importée dont la production en Asie et au Brésil est à l'origine d'une déforestation importante et provoque parfois des déplacements de population.
La querelle autour du nom que doit prendre la Macédoine, petit état issu de l'ex-Yougoslavie, n'est pas terminée. On le sait, la Grèce refuse l'utilisation du mot Macédoine par son voisin. C'est son héritage culturel et le nom d'une de ses régions. Mais à Skopje, on n'a pas dit son dernier mot et les nationalistes se mobilisent. Reportage de Simon Réco.
Samedi 3 mars, des dizaines de milliers de Macédoniens de la diaspora ont défilé dans 14 villes du monde entier, principalement en Australie et aux États-Unis. Ces rassemblements étaient organisés à l'appel du mouvement « Notre nom et notre droit » qui réclame l'arrêt immédiat des négociations avec la Grèce. C'est à Melbourne que la mobilisation a été la plus forte. 30 000 personnes ont marché derrière une immense banderole sur laquelle on pouvait lire « Nous sommes la Macédoine, assez, c'est assez ». À la tribune, de nombreux anonymes sont venus défendre leur nation.
Je vous entends tous, chacun de tous ceux qui sont ici. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. C'est le début pour notre reconnaissance. Je suis macédonien, j'étais macédonien, je serai macédonien. Vive la Macédoine !
Très remontée, la foule a brûlé des drapeaux grecs et la photo de Zoran Zaev, le premier ministre social-démocrate. En Macédoine, la mobilisation du camp nationaliste a commencé une semaine plus tôt. Le 27 février, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale Skopje, malgré la neige et les températures glaciales. Le mot d'ordre, défendre le nom de l'État et l'identité de la nation, les pancartes, stop au racisme grec ou stop aux négociations. Deux jours plus tôt, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, était venu insister sur l'importance de ce dialogue pour la reprise du processus d'adhésion.
D'ordinaire, nous venons rappeler les objectifs qu'il faut atteindre, mais cette fois, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop en dire publiquement. Faites ce que vous avez à faire avec la Grèce fera de même avec votre pays et les choses iront dans la bonne direction.
Un conseil visiblement entendu, ces dernières semaines, le Premier ministre macédonien a multiplié les gestes d'ouverture vis-à-vis d'Athènes, décidant notamment de débaptiser l'aéroport de Skopje et l'autoroute nationale qui ne porte plus le nom d'Alexandre le Grand. Il reste néanmoins un obstacle de taille à Zoran Zaev, convaincre son opinion publique, toujours majoritairement opposée à toute modification de nom. Les démonstrations de force des nationalistes semblent en tout cas avoir porté un sérieux coup au dialogue bilatéral. Après des débuts prometteurs, les négociations sont aujourd'hui au point mort. C'est pourtant la clé pour que Skopje puisse espérer rejoindre l'Union européenne et l'OTAN.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité. Pour notre part, on se retrouve dès demain.